Et là-dessus, je dis bonjour à Annie Saint-Pierre, réalisatrice du documentaire Le plein potentiel, son plus récent film qui prend l'affiche bientôt, le 6 juin prochain, dans plusieurs salles à Montréal, Québec et Sherbrooke. Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors, avant de poursuivre la conversation qui n'est pas nécessairement entamée, on va écouter la bande-annonce de votre film.
Si tu tombes sur cette capsule, à cet instant précis, c'est peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Je t'invite à fermer les yeux. Prends le temps de déposer, d'apprécier ce que tu ressens.
Plus tu vas te focaliser sur cette vision, plus tu vas la vivre. Tout se mettra en place.
Quel est le sens de ton action en coaching? À quel monde souhaites-tu contribuer?
J'aimerais contribuer à un monde meilleur, où les gens s'acceptent tels qu'ils sont et utilisent leur plein potentiel.
La bande-annonce du film Le plein potentiel, un film que j'ai eu la chance de regarder, film fascinant, exaspérant et touchant. Et vous, Annie Saint-Pierre, comment vous présentez votre documentaire?
Oh, bonne question. Je dirais que c'est une vraie expérience dans le monde du coaching, avec un accès intime, privilégié dans des sessions de coaching. Puis je dirais que c'est un miroir de nous, de notre société, de nos peurs et de nos quêtes et de notre psyché très influencée par le système capitaliste, néolibéralisme et l'individualisme du 21e siècle. C'est correct, ça?
Très bien, c'est plus que correct. Mais quelle était l'idée, l'objectif de la création de ce film?
Ben, l'objectif, je pense que je voyais cette industrie depuis plusieurs années. Là, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, dans ma famille. Là, mes parents aimaient la croissance personnelle. Puis là, je voyais se développer de plus en plus l'industrie du coaching. Puis son langage aussi, pénétrer le langage commun, le langage de tous les jours. On entend ça souvent, le plein potentiel, la meilleure version de toi-même.
Se déposer.
Ouais, tout ça, là, tu sais, on l'entend vraiment beaucoup.
Ouais.
Puis ça me fascinait, je me disais, ah, tu sais, c'est on est vraiment devenu obsédé par l'auto-optimisation.
Oui, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris grâce à votre film, parce qu'en ouverture, on a une citation de Byung-Chul Han, « L'obsession de l'auto-optimisation fait de nous des travailleurs perpétuels de notre propre moi. » Alors, l'auto-optimisation, ça veut dire quoi? On veut toujours s'améliorer? On veut toujours faire plus?
Oui. Oui, puis ça devient comme une obsession, être meilleur, être bien, tu sais, être dans le bonheur, puis tirer le meilleur de ce qu'on pourrait de la vie. Mais bon, tu sais, quand on prend un pas de recul, on le sait là qu'on n'a plus de contrôle sur la vie, que la souffrance fait partie de la vie, qu'il va toujours y avoir des moments moins fun que d'autres. Puis on se rend compte en voyant le film que ben, tu sais, il y a quand même beaucoup de souffrance autour de ça, parce qu'on est seul, parce que notre société est faite de beaucoup d'individualisme, qu'on a un peu perdu la façon collective de passer à travers tout ça, et que ben c'est là qu'arrivent les coachs, c'est là que se développe cette industrie pour pallier à un manque qu'il y a dans la société. Et donc, moi, j'avais envie de le regarder avec ce pas de recul-là pour qu'on voit dans le micro qu'est-ce que ça fait à l'individu, mais dans le macro, qu'est-ce que ça donne aussi comme portrait de notre société.
Et c'est un regard qui ne porte pas de jugement. C'est ce qu'on entend beaucoup, là, parce que déjà, les critiques, les journalistes ont commencé à parler de votre film. Comment vous vouliez aborder la chose? Parce que, justement, il y a du respect, il y a de la lucidité, même si, quelquefois, j'imagine que vous avez été heurté par certaines propositions. Vous rencontrez quand même plusieurs coachs de vie, plusieurs manières d'aborder le plein potentiel ou de donner envie aux gens qui rencontrent ces coachs de vie-là d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, on nomme ça beaucoup que c'est un film sans jugement. C'est sans jugement, mais moi, je dirais qu'il y a quand même un regard critique, dans le sens où la structure du film expose les dérives possibles de l'industrie en créant des tensions. C'est un film où il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de narration. L'idée, c'était pas de que des gens nous disent quoi penser, mais qu'on expérimente nous-mêmes des émotions, mm-hmm. Des malaises, de l'inspiration, une gamme d'émotions vraiment diverses d'une scène à l'autre, mais dans la musique, dans le choix de cadre, dans le montage, on sent quand il y a des tensions, on sent quand je dis comme ouh, et là, tu sais, ça dit quelque chose quand même sur nous où il faudrait porter attention.
Oui.
Mais le jugement, je sais pas, je trouve ça pas intéressant. Je pense que c'est juste pas ma façon de regarder le monde. Je pense que quand quelque chose me surprend, j'ai envie de comprendre, de m'approcher. Mais être pour ou contre, je trouve toujours ça très stérile. Tu sais, je trouve qu'on est plus complexe que ça. Surtout quand on veut comprendre l'être humain, je pense qu'être pour ou contre, c'est vain, là. Tu sais, il faut juste s'approcher, puis questionner, puis...
Et faire confiance aussi aux spectateurs.
Oui, bien ça, c'est sûr que c'est au cœur de ma démarche. Là, je pense qu'on sous-estime la capacité du spectateur à être surpris puis à aimer ça. Les gens, ils vont voir de l'art, mais l'art, ça sert à surprendre, à provoquer, à créer quelque chose qui fait qu'on ne regardera pas le monde exactement de la même façon après. Sinon, c'est du divertissement, puis il y en a en masse, là, tu sais, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais quoi que, le film divertit aussi, je pense. Mais...
Il y a quelques scènes, quelques moments divertissants. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les personnes d'être filmées dans des moments quand même aussi intimes?
Ben oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de refus, mais les gens qui m'ont dit oui, je voulais pas avoir à les convaincre. Je voulais qu'ils soient... all-in qui a envie de le faire. Puis ça parle de la sincérité de leur démarche. Je pense que quand on est convaincu de quelque chose, qu'on le fait pour les bonnes raisons, qu'on y croit, on n'a pas de gêne à ce que quelqu'un vienne observer ça. Et donc, quand ils m'ont dit oui, moi, je suis allée tourner en leur disant tout le temps, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous me le dites, puis on les mettra pas dans le film. Tu sais, j'avais une éthique assez serré, là, mais c'est pas arrivé. Ils étaient tous très généreux. Ils ont vu le film. Ils étaient à la première médiatique lundi. Ils endossent le film. Ils l'assument. Ils en parlent autour d'eux.
Il y a personne, là, qui s'est montré choqué, déçu, froissé ou...
Non.
Tant mieux.
C'est ça qui est le fun. Mais je crois que... C'est ça. Je pense que c'est vraiment dû à la sincérité de leur approche et aussi... la sincérité de la mienne.
Oui.
Tu sais, oui, il y a un regard critique, mais il est sur notre société. Il est pas sur l'individu dans le film. Mm-hmm. Donc, eux, ils comprennent aussi que leur démarche, elle est beaucoup plus complexe que le 10 minutes où ils apparaissent dans le film. Ils savent que moi, je défends ça aussi. Tu sais, j'ai fait un film, là. Je les ai pas suivis dans leur vie. Donc, faut faire la part des choses entre l'œuvre et la réalité, mais l'œuvre amène un regard sur notre réalité, notre hyper-individualisme, notre obsession nous-mêmes. Puis je pense qu'il faut commencer à le voir pour être capable d'aller plus loin.
Et Annie Saint-Pierre, comment vous êtes arrivée à avoir accès aux coachs et à leurs patients, clients?
Je les appelais. D'abord, mon seul prérequis pour choisir les coachs, comme l'industrie n'est pas réglementée, je voulais pas que ce soit moi qui décide ça c'est des bons coachs puis ça c'est des mauvais coachs. Tu sais, je voulais pas me mettre dans cette situation-là. Je voulais que ça ressemble à l'industrie avec le large panorama de ce que cette industrie offre. Mm-hmm. Donc, le seul prérequis, c'était que eux se nomment coach. Et là, je fouillais sur Internet, de bouche à oreille. J'ai vraiment approché plusieurs personnes. Quand je les trouvais, je les appelais, on se parlait au téléphone. Et je leur disais, bon, ben on va être là pour une session. Et c'est ça. Quand ils voulaient, ils m'ouvraient la porte, on allait les filmer. On était une petite équipe de trois. Et pense que le coaching, c'est pour faire la démarche d'aller se faire coacher, il faut être prêt à se sentir vulnérable, à se sentir ouvert. Et donc, les gens, ils accueillaient notre regard sur leur démarche.
Est-ce qu'il y a des méthodes d'atteinte du plein potentiel et des coachs en croissance personnelle qui vous ont plus surprise que d'autres, qui vous ont peut-être même décontenancé durant le tournage?
J'essayais toujours de porter mon regard sur la relation. La relation entre le coach puis le coaché, c'est ça qui m'intéressait puis qui est constant dans toutes les sessions. Il se bâtit une confiance, une place où le coaché est vu. Au-delà de l'approche ou de la technique, je pense que c'est ça qui fait du bien, de se sentir vu et entendu par quelqu'un. C'est sûr qu'il y en a qui sont surprenantes, là, tu sais, les gens parlent beaucoup du coaching BDSM, là, le coaching sadomasochiste.
Oui, le couple qui veut bâtir quelque chose de solide.
Oui. Oui. Oui, voilà. Et où la femme essaie la domination parce qu'elle cherche à changer, elle cherche à être un peu plus dominante dans son couple. On voit aussi peut-être les limites du changement rapide, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer de notre personnalité profonde. Mais je pense que, tu sais, au-delà du dispositif là où ils font appel au BDSM puis ils sont habillés en cuir, le côté thérapie ou approche du changement et du coaching est vraiment intéressant et vraiment profond. Le rebirth avec un genre d'orgasme spontané à
les
la fin.
Les yeux révulsés, oui. Là. Oui, oui. Moi aussi.
Je me disais, je pensais pas que c'est ça qui allait arriver. Mais bon, j'étais dans l'accueil. Puis l'être humain est surprenant. Tu sais, c'est ça qui est le fun de l'observer. C'est qu'il est bizarre et touchant en même temps. Moi, je suis surprise, mais je fais du documentaire parce que je trouve que ça va toujours plus loin que la fiction. Quand je vais être surprise, je me refais un petit film documentaire d'observation, là, puis à chaque fois, je me dis « Wow! J'aurais jamais pu écrire ça toute seule dans ma chambre, là, tu sais. » toujours agréable d'être surprise.
Et Annie Saint-Pierre, est-ce qu'il y en a un coach de vie qui proposait une manière de faire qui vous a inspiré assez pour vous dire « Ah, ben je vais m'inscrire, je vais l'essayer. »
Oui, oui, absolument. Moi, la rigolothérapie, ça me plaît.
Ah oui? Ça arrive dans une église à gorge déployée.
Oui. Et c'est drôle. L'église, en fait, le lieu, ça, moi, je fais de l'essai documentaire. Hein. Donc, pour moi, d'abord et avant tout, c'est du cinéma. Donc, si les sessions sont pas du tout stagées, par contre, les lieux, il y en a sur lesquels je suis intervenue. L'église, c'est moi qui voulais qu'ils fassent cela parce que pour moi, il y avait une symbolique dans le fait qu'on s'est rassemblés longtemps en communauté pour croire en Dieu. Et maintenant, on est seul ou avec des coachs pour croire en soi.
Oui, oui, il y a un symbole là.
Oui, il y a beaucoup de symbolisme. Je joue avec la perception parce que c'est aussi une dimension du coaching. Il y a tout ça dans le film. Mais donc, la rigolothérapie, il y a aussi la coach de la chanteuse d'opéra, de l'Opéra de Montréal, Rose Nagar.
Oui, oui. Quelle belle
pour
voix.
Moi, Catherine, oui, oui. Et Catherine Pinard, sa coach, elle est tout à fait fascinante et inspirante. Elle utilise la philo beaucoup aussi. Elle a une façon de coacher qui est très libératrice. J'irai la voir.
Bon, alors il y en a au moins deux. Il y a aussi, oui. Moi j'aime bien aimer aussi la scène là, avec les chevaux.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Mais c'est ça, le film a été construit pour que tout le monde trouve son compte au moins dans une scène. Tu sais, qu'on s'identifie au moins à un coaching, puis qu'on puisse se dire, ben ça m'inspire, tu sais, ça change d'une personne à l'autre, mais je pense que toute personne du public qui va voir le film aura à un moment un petit éveil, là, comme il appelle.
Et Annie Saint-Pierre, est-ce que, selon vous, la recherche du plein potentiel est saine?
Ben, je pense qu'il faut se donner un petit break là-dessus. Je pense que c'est bien de vouloir avoir une conscience de soi, de se connaître, mais il y a un moment aussi où il faut se tourner vers l'autre, où il faut être dans le collectif davantage que dans la quête individuelle. Puis il faut plutôt que de chercher le positif en tout, il faut pouvoir avoir des émotions négatives aussi qui vont nous amener à une certaine révolte. La société, en ce moment, notre monde, pas besoin de le dire, là, il va pas bien. Et il faut être capable de ressentir de la colère pour se lever ensemble puis dire non, ça, on n'accepte pas ça, ça, on se mobilise contre ça, plutôt que de juste vouloir être bien chacun dans notre petite maison.
Oui, et vos parents, vous disiez en début d'entrevue qu'ils étaient des amateurs de croissance personnelle. Est-ce qu'ils ont vu votre film?
Oui, oui. Mon père ne l'a pas vu encore. Ça s'en vient quand je vais aller en région. Je viens du bas du fleuve, là, donc j'amènerai le film chez moi. Mais ma mère l'a vu, elle l'a vu plusieurs fois. Elle l'aime, elle trouve que c'est un film qui laisse les gens se faire leur propre opinion. Elle trouve que c'est nuancé, qu'on n'y accuse personne, mais que ça nous pousse à réfléchir. Mais c'est une mère. Si elle l'aime pas, est-ce qu'elle va vraiment me le dire? Là? Je pense.
Bien, habituellement, les mères sont assez... On peut lire entre les lignes, là. D'après le ton de la voix, d'après les mots qu'elles utilisent. Alors, je pense qu'elle a raison parce que c'est un film réussi. Et peut-être une question personnelle. J'en ai déjà posé des questions personnelles pendant cette entrevue, mais une petite dernière, là. Quelle est la chose la plus étonnante, la plus folle que vous ayez faite pour vous sentir plus powerful, là, en référence à la scène d'ouverture qui se passe dans l'eau froide?
Je suis un peu plate par rapport à ça, je dois dire. J'ai pas fait beaucoup de thérapie avec des tu sais, surprenantes ou avec de l'excentricité, mais tu sais, pour y aller dans le personnel, là, tu sais, j'ai tellement pris de ce que les gens m'offraient que faut maintenant que je me révèle aussi. Mais moi, je suis plutôt thérapie classique, là. J'en ai fait de la thérapie, puis je trouve que c'est toujours très motivant, éclairant. Pour quelqu'un qui écrit aussi, c'est le fun de connaître l'être humain, tu sais, d'aller profondément en soi. Mais je suis un peu plate, j'ai rien à révéler, là. Pas de saut en bungee où j'aurais crié ma plus grande peur. rien d'extrême, là. Un peu de yoga, un peu de thérapie, beaucoup d'amis, par contre.
Ah, ben c'est merveilleux. Étape par étape, oui. Mais pas nécessairement dans la platitude, là. Il faut pas quand même dire que vous êtes plate. Mais votre film est loin d'être plate. Et,
je pense que c'est dans la création et dans l'art que je trouve des histoires pour trouver du sens à mon humanité. C'est ma propre thérapie.
Mais ça m'a fait plaisir de vous reparler parce que je me souviens d'avoir fait une entrevue avec vous à propos de votre court-métrage « Les grandes claques » qui a été présenté en première à Sundance, qui a été aussi nommé dans la courte liste des Oscars. Un excellent film qui mettait en vedette l'excellent acteur, comment il s'appelle, Steve Plant.
La Plante,
c'est ça. Alors, bien là, c'est autre chose et j'invite les gens découvrir le plein potentiel, le plus récent documentaire, le plus récent film de la réalisatrice Annie Saint-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Hélène, c'était un plaisir.
Bye bye.
Bye bye.